Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL et il est 10h. Les informations, c'est avec vous, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À la une, une commission d'enquête parlementaire réclamée après l'attaque qui a fait 4 morts jeudi après-midi à la préfecture de police de Paris. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier vérification tous azimuts pour détecter de potentiels dysfonctionnements. Dossier complet dès le début du journal. Dans l'actualité aussi ce matin, la Corrèze rend hommage à Jacques Chirac. Claude, sa fille, s'est recueilli dans le cimetière de la famille à Sainte-Féréole. Drôle de mésaventure pour des centaines de passagers du TGV Sud-Est. Ils ont été bloqués plusieurs heures hier à Marseille en raison d'une fuite de gaz. Retour à la normale ce matin. Et puis les sports, défaite de l'OM hier 3-1 à Amiens. Angers va tenter de réaliser l'exploit cet après-midi au Parc des Princes. La météo avec vous, Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Yann.
Du soleil, mais sur le sud de la France.
Effectivement, uniquement entre le pied des Pyrénées, la basse vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, mais avec du vent. Ailleurs, c'est gris, le plus souvent couvert avec des averses ici ou là, averses plus nombreuses entre la Normandie, l'Île-de-France, la Lorraine et la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis mince espoir d'éclaircies sur la Bretagne, dans le sud-ouest et près des frontières du Nord. Les températures aujourd'hui, entre 14 à Lille et 25 à Toulon. Vous aurez 16 à Strasbourg, 17 à Paris et 20 degrés à Nantes.
Merci Anthony.
RTL, le 10h, avec Yann Boucherie.
La sidération des premières heures a donc laissé place à l'incompréhension et parfois à la colère. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête hier après les nouveaux éléments concernant l'informaticienne de 45 ans, habitant Gonesse dans le Val d'Oise et qui a donc assassiné 4 de ses collègues jeudi au sein même de la préfecture de police de Paris. Selon plusieurs sources, l'étude de la téléphonie et en particulier de texto a confirmé la préparation d'un acte violent. La proximité avec des personnes appartenant à la mouvance salafiste intrigue également les policiers de la brigade criminelle. Plusieurs députés sont montés au créneau depuis quelques heures en réclamant la création d'une commission d'enquête parlementaire. C'est le cas d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, mais aussi de son collègue Éric Diard des Républicains. Il est le co-auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics.
Moi aussi, je souhaite qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire à ce sujet parce que, à mon avis, il y a eu des failles dans le renseignement. Vous avez quand même le ministre de l'Intérieur qui vous dit ce type n'a aucun signalement et vous apprenez au jour d'aujourd'hui qui quand même en 2015 il faisait l'apologie des attentats. Bon, il refusait de serrer la main depuis quelques semaines ou quelques jours à ses collègues de travail. Donc il avait des signes de radicalisation.
Éric Diard, le député Les Républicains, invité d'RTL ce matin. Éric Ciotti, de son côté, dénonce, je cite, l'incompétence du ministre de l'Intérieur qui a failli. Mais la pression s'accentue surtout sur les organes de contrôle. Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour.
Il faut désormais s'attendre à des vérifications interne tous azimuts pour savoir comment cet individu radicalisé est passé sous les radars.
Oui, effectivement, des enquêtes administratives, cela semble inévitable. L'inspection générale des services va se pencher sur les circonstances de cette attaque, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, les mesures de sécurité qui auraient pu être défaillantes, alors que la direction du renseignement de la préfecture de police, service dans lequel était l'employé et cet informaticien, cette direction est censée être ultra protégée. Il va donc y avoir un audit interne, les services d'enquête et de renseignement, jusqu'à la direction générale de la sécurité intérieure vont aussi passer au crible le profil de l'assaillant, reprendre point par point son dossier, son parcours professionnel, savoir s'il n'avait pas été signalé d'une façon ou d'une autre dans le passé pour son comportement. Le ministre de l'Intérieur avait tout de suite déclaré que cet employé n'avait jamais attiré l'attention, mais des témoignages en cours de vérification émergent toutefois, par exemple sur le fait qu'il ne s'est plus la main aux femmes, enjeu capital pour l'institution policière. Si la moindre faille est détectée, alors c'est tout le processus d'évaluation des personnels dits sensibles qui pourrait être revu.
Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard pour toutes ces précisions. RTL, 10h et 5 minutes. Après la capitale, la province. 6 jours après les obsèques de Jacques Chirac, qui a été inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris, c'est au tour de la Corrèze de rendre hommage à celui qui a été son plus célèbre représentant. Tout ce week-end, les habitants sont invités à saluer sa mémoire. En présence de Claude Chirac, la fille de l'ancien président, s'est recueillie ce matin sur la tombe de ses grands-parents à Sainte-Féréole, où vous vous trouvez pour RTL, Jean-Marc Terrier.
Oui, Claude Chirac et son mari Frédéric Salabarou sont donc arrivés un peu avant 9h pour se recueillir sur le caveau familial. Dans ce petit cimetière situé à une quarantaine de kilomètres de Saran, reposent les parents et les grands-parents du président Chirac. Une tombe simple et discrète. Caroline est une habitante de Sainte-Féréol. Son fils repose également dans ce cimetière.
C'est très simple, c'est une tombe qui se noie, on va dire, dans les autres. C'est pas quelque chose de somptueux, ou non, non.
Oui, ça reste très discret et à la limite, on a du mal à la trouver.
Ah oui, moi je l'ai cherché.
Claude Chirac et son mari ont ensuite rejoint la mairie de Sainte-Féréol. Sur la place du village, il y a deux portraits de Jacques Chirac. Il y a actuellement quelques prises de parole. Le cortège rejoindra ensuite le musée du président où une cérémonie d'hommage est organisée. Cérémonie qui a été voulue à la fois par le conseil départemental et la famille. François Hollande est attendu. Les deux présidents se sont longtemps combattus politiquement et sur le tard, ils ont fini par se retrouver soudés par leurs racines communes. La Corrèze.
Le reportage à Sainte-Féréol de Jean-Marc Terrier pour RTL. En bref, 224 personnes au total se sont présentées aux urgences hospitalières en lien avec l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen et 8 d'entre elles ont été hospitalisées selon les chiffres dévoilés hier par l'Agence régionale de santé de Normandie. De son côté, la société Lubrizol s'est engagée à participer à la réparation des conséquences du sinistre. La SNCF l'assure, tout est rentré dans l'ordre après une grosse pagaille hier après-midi dans la région sud-est. Le trafic a été interrompu totalement à 16h30 à cause d'une fuite de gaz à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Après des heures de paralysie, la SNCF a finalement réussi à affréter une quinzaine de bus et une rame TGV spéciale pour prendre en charge tous ses clients qui étaient bloqués à Marseille. Pauline faisait partie de ces malchanceux.
À minuit, on nous a réveillés pour nous dire qu'il y avait un train qui allait partir pour Nice et qu'à Nice, on serait desservi Menton, Monaco. Et en fait, arrivé à Nice, il n'y avait absolument rien de prévu et on a dû redormir dans les trains. Les personnes âgées, c'était vraiment compliqué. Il y en avait qui dormaient à même le sol. Les autres, on essayait d'être sur deux sièges dans le meilleur des cas. On était tous assez énervés et personne n'a réussi à dormir de toute façon. Il y en a qui venaient de Paris et qui avaient des liaisons à Marseille ou d'autres à Toulon. Et donc, depuis à peu près 15h de l'après-midi, ils sont dans les trains. Bon, on est content d'arriver à destination. Ben, par contre, il nous manque une nuit, quoi.
Et petite consolation pour ces naufragés du rail, la SNCF s'est engagée à rembourser intégralement ses voyageurs. L'actualité à l'étranger, une répression sanglante en Irak contre des manifestations anti-gouvernementales. 73 personnes ont été tuées depuis mardi et plus de 3000 blessés, selon la Commission des droits de l'homme irakienne. Et puis tout le réseau du métro de Hong Kong est à l'arrêt après une nuit de violence entre manifestants pro-démocratie et policiers. La foule a bloqué des artères du quartier des affaires. Des heurts ont éclaté. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Un garçon de 14 ans a été blessé par balle. Une pause dans ce journal avant la page des sports et le rêve éveillé, pourquoi pas, du SCO d'Angers. A tout de suite.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
À 10h10, on ouvre la page des sports avec le football et l'Olympique de Marseille en panne. L'OM s'est incliné 3-1 hier soir à Amiens. Quatrième match sans victoire consécutive pour les Phocéens. Suite de la 9e journée de Ligue 1 cet après-midi avec un duel de haut de tableau entre le leader Paris et son surprenant dauphin Angers. Les Angevins qui viennent dans la capitale, finalement sans rien à perdre, Thierry Lardeux.
Une victoire du dauphin scoïste chez le leader parisien. Claude Arribas, joueur du Paris Saint-Germain au début des années 70, puis d'Angesco dans les années 80, veut y croire.
Ce sera un exploit, mais bon, nous sommes deuxième quand même. On a les moyens de s'imposer là-bas. On a la meilleure attaque, et tout est possible.
Pour reprendre les mots de Stéphane Houlin, l'entraîneur angevin qui a débuté sa 8e saison consécutive sur le banc, le dauphin a nagé dans des eaux calmes cette semaine pour préparer ce match au sommet. Mais le dauphin peut-il se transformer en requin ? L'entraîneur angevin a sa petite idée.
Tout le monde nous prédit qu'on va prendre une raclée, donc on verra. Mais en tout cas, un match de foot, c'est ce qu'il y a de formidable. Il peut y avoir des faits de jeu. C'était il y a 2 ou 3 ans quand Thiago Motta s'était fait expulser. On n'est pas passé loin. Il y a une grande différence entre certaines équipes, mais elle peut être parfois gommée par tout un tas de choses que personne ne peut prévoir. On mise beaucoup là-dessus.
Comme d'habitude avec Paris, ce sont les hommes de Thomas Tuchel qui auront sans doute les clés du match. Mais pour garder celle de la Ligue 1, ils ne devront surtout pas prendre à la légère cette surprenante équipe angevine.
Thierry Lardeux, PSG Angers, c'est à 17h30. Les autres matchs de la soirée à vivre dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France à 19h30. En Ligue 2, Lorient à Calais 0-0 hier devant Ajaccio mais conserve la tête du classement. À 14h45 aujourd'hui, Auxerre reçoit Le Havre. De son côté, l'équipe de France féminine a battu l'Islande 4 à 3-0. C'était hier en match amical à Nîmes, avec notamment un doublé d'Eugénie Le Sommer. Au Mondiaux d'athlétisme de Doha, 10e place seulement au lancer du disque pour Mélina Robert-Michon. Le 4x100 masculin, de son côté, s'est qualifié pour la finale. Le 4x100 féminin, en revanche, disqualifié en série pour un mauvais passage de relais. La Coupe du Monde de rugby, l'Australie a battu l'Uruguay 45-10 ce matin. Depuis quelques minutes, l'Angleterre affronte l'Argentine dans le groupe des Bleus et ce sont les Anglais qui mènent 5-3. À suivre également aujourd'hui, Japon-Samoa à 12h30. Enfin, pour son retour en Euroleague de basket, l'exploit de Villeurbanne hier à domicile. Villeurbanne qui a battu l'Olympiakos 82-63. On termine avec les courses, elles ont lieu à Longchamp. Attention, le 8 est non partant dans cette course. Sinon, Dominique Cordier vous conseille le 4, le 13, l'As, le 14, le 10, le 2, le 11, le 7. La dernière minute, le numéro 14. 10h13 sur RTL. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette matinée. Il est grand temps de retrouver la musique, mon cher Vincent.
Oui, non, mais vous remerciez Stop Yann encore. Comme si vous alliez pas si vite. Vous revenez à 11h.
Ah, quel teasing.
Ah, voilà.
Je serai là à vos côtés.
Ça m'aurait vraiment trop perturbé. À tout à l'heure.